Bienvenue sur la planète des inspiratrices. Je vous invite à voyager à travers les quatre coins du monde pour aller à la rencontre de femmes inspirantes de différents horizons. Je suis Leïla, révélatrice de talents féminins et je suis animée par la volonté d'accompagner les femmes à prendre conscience de leur potentiel et à le faire briller dans le respect de leur authenticité et de leurs valeurs. Un célèbre coach de développement personnel américain, Jim Rohn, disait « Tu es la moyenne des cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps ». Dans ce podcast, vous aurez la possibilité d'étendre votre bulle d'inspiration et de vous nourrir de belles histoires grâce aux interviews de femmes audacieuses au parcours exceptionnel. Ces femmes ont accepté l'aventure d'être elles-mêmes, d'être libres et de vivre en adéquation avec leur mission de vie, leur why, leur pourquoi. Et elle est là leur réussite. Je profiterai aussi de ce podcast pour offrir aux femmes, quel que soit l'environnement dans lequel elles évoluent, de nombreux conseils qui les aideront à faire tomber leurs croyances limitantes et ainsi percer les plafonds de verre. En écoutant ces témoignages inspirants et mes conseils à consommer sans modération, vous vous rendrez vous-même compte que rien n'est impossible. N'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on s'impose. Mesdames, osez faire rayonner votre potentiel et le faire briller dans le respect de votre authenticité et de vos valeurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode aux côtés de Pierre-Yves Ginet. Pierre-Yves est l'un des fondateurs de l'association Femmes ici et ailleurs, né il y a une vingtaine d'années à Lyon, en France. Il est aujourd'hui co-rédacteur en chef du magazine Femmes ici et ailleurs et dirige les éditions du 8 mars. Ce magazine Femmes ici et ailleurs est l'équivalent d'un courrier international qui met en avant les femmes des quatre coins du monde et que j'ai eu le plaisir de découvrir pendant le confinement. Comme vous le savez, le podcast Les Inspiratrices est pour moi une belle opportunité de mettre en avant toutes ces femmes au parcours inspirant, mais aussi de mettre en avant des hommes engagés au profit de la mixité et de l'égalité professionnelle. Pierre-Yves est un acteur passionné, engagé par ce sujet. Avant de démarrer l'interview avec Pierre-Yves, je souhaite vous donner quelques informations pour découvrir davantage Pierre-Yves. En 1996, Pierre-Yves abandonne une carrière d'analyste financier pour devenir photojournaliste. Grand reporter, il découvre les résistances de femmes par un travail approfondi sur le combat des non-tibétaines, puis il élargit son champ d'action au monde entier. Depuis 1998, il a réalisé une trentaine de reportages sur ce thème dans des pays très divers, la plupart répertoriés dans l'ouvrage « Femmes en résistance » paru en 2009. Témoignant de ses luttes, son travail a été exposé à de nombreuses reprises en France et à l'étranger, attirant des centaines de milliers de personnes. Dans ce cadre, il a accompagné plus de 600 groupes pour leur présenter ces femmes oubliées avec pour objectif de pousser à la réflexion sur les stéréotypes sexistes et l'égalité femmes-hommes. Pierre-Yves a également été nommé au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes par le Premier ministre français en 2016, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2019. Il est également membre du comité d'orientation du Laboratoire de l'égalité. Il a été nommé Chevalier de l'Ordre national du mérite en 2018. Une discussion qui s'annonce riche et passionnante, au cours de laquelle Pierre-Yves partagera son engagement et sa passion pour la mixité et l'égalité professionnelle. Il nous expliquera comment est née l'association Femmes ici et ailleurs, ainsi que le magazine Femmes ici et ailleurs, qui met en avant des femmes inspirantes des quatre coins du monde. Nous accueillons sans plus tarder Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves, comment vas-tu ?
Bonjour Leïla, je vais très très bien, plein d'énergie.
Je serais curieuse d'en savoir un peu plus par rapport à ton engagement au profit de l'égalité homme-femme en général, notamment sur les sujets de mixité et d'égalité professionnelle. Et selon toi, quels sont les enjeux représentés par un tel sujet d'une brûlante actualité aujourd'hui ?
Bah, c'est vrai que l'égalité, moi je suis en France, hein, l'égalité est écrite au fronton de toutes les mairies, de toutes les devises nationales et autres, et puis l'égalité, on n'y est toujours pas, faut être clair, et on en est loin, et quel que soit le champ d'ailleurs, professionnel, privé, espace public, sport, ce qu'on veut, enfin, on n'y est pas du tout, le compte n'est pas là. Et à un moment donné, je pense que c'est une question de cohérence individuelle et collective. C'est de se remettre en cause, de se dire pourquoi on n'en est pas là. C'est bien joli les mots, hein, mais à un moment donné, il y en a marre, il faut passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire, toutes et tous, pour faire en sorte que cette, cette égalité devienne une réalité, ou au moins s'en rapprocher. On parle évidemment d'une égalité en droit réel entre les femmes et les hommes. Et puis après, il y a cette quelque chose qui m'est très cher, moi, c'est cette culture de l'égalité commune qui est à construire, parce qu'encore une fois, elle n'est pas là, et elle n'est pas là au Maroc, elle n'est pas là en France, avec des spécificités différentes de part et d'autre de la Méditerranée, comme dans d'autres pays. Mais en tout cas, on se rejoint vraiment là-dessus, c'est que le compte n'y est pas. Donc comment faire pour que cette culture de l'égalité infuse les mondes privés, les mondes professionnels, les mondes publics, comment agir? Et pour moi, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire comprendre que qu'on ne peut pas on peut pas saucissonner le tout, on peut pas partager, dire je travaille sur l'égalité pro, mais pas le reste parce que ça me regarde pas. Je travaille, je refuse de m'intéresser à la sphère privée parce que moi, je suis uniquement dans une entreprise où je suis quelqu'un du monde politique et je veux mettre en place l'égalité dans le sport, mais tous les autres domaines ne m'intéressent pas. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est un continuum, tout ça. Et c'est une culture à propager auprès des femmes et des hommes. Et après, on va commencer à être efficace. Une entreprise qui veut pas savoir ce qui se passe dans la rue, mais qui dit travailler sur l'égalité, elle a pas encore compris ce qui se passe. Elle a pas encore compris le sujet. Et c'est ça qui est important pour moi. Et pour moi, l'enjeu, il est très enthousiasmant parce que ce domaine est palpitant au niveau des rencontres qu'on peut faire. La preuve, l'échange qu'on a tous les deux et qu'on a eu avant, qui amène cette rencontre aujourd'hui. Il est palpitant intellectuellement, c'est d'une grande complexité, d'une grande diversité. Faut souvent se gratter la tête parce que c'est compliqué, contrairement à tout ce qu'on voudrait croire, les idées simples, c'est pas ça, il y a qu'à Faucon, etc. Non, c'est très compliqué et c'est ça qui fait qu'il c'est passionnant. Donc, c'est à la fois enthousiasmant, passionnant, intellectuellement complexe et vraiment enthousiasmant. Et puis à la fin de tout ça, il n'y a pas beaucoup de domaines, je crois, où les femmes et les hommes ont tout à gagner, en fait. Bon, l'égalité femmes-hommes, évidemment, bénéficie aux femmes, c'est un peu écrit dessus, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en introduction de mon propos, le compte n'y est pas pour les femmes. Et moi, je fais partie des dominants, je suis du bon côté de la table. Il va falloir m'arrêter de penser en termes de pouvoir, et uniquement de pouvoir, que ce soit dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, dans la sphère publique. Il n'y a pas que le pouvoir dans la vie, je crois, quel qu'il soit. Mais moi, en tout cas, je suis persuadé que j'ai beaucoup de choses à gagner. Ça va me demander de changer, mais j'ai beaucoup de choses à gagner dans la sphère privée. Nos entreprises ont beaucoup de choses à gagner en travaillant sur l'égalité. Tout le monde a vraiment à gagner. Et il n'y a pas beaucoup de champs dans la société, je crois, aujourd'hui, où tout le monde a y gagné. Je pense qu'il y a l'égalité femmes-hommes et l'environnement. Voilà, en gros.
En effet, bah, je te rejoins à 100%, Pierre-Yves, sur ce que tu viens de partager. C'est un long combat, un long chemin avant de parvenir à une égalité parfaite, homme-femme. Et comme tu l'as justement dit, on ne parle pas que de la sphère professionnelle, mais différentes sphères. Et effectivement, il s'agit d'une histoire qui engage hommes et femmes, main dans la main, pour parvenir à un monde plus égalitaire, et ce, à travers les quatre coins du monde. En tout cas, bravo pour ton engagement sur ce sujet-là. J'ai toujours été très impressionnée quand nous avons eu l'occasion d'échanger ensemble et puis faire quelques recherches aussi sur tes actions en matière de mixité et d'égalité professionnelle. Donc vraiment, bravo. Et alors, dis-moi, l'association Femmes ici et ailleurs, comment est-ce que tu es arrivée à la création de cette association, puis ensuite le lancement du magazine Femmes ici et ailleurs, qui pour moi a été une révélation pendant ce confinement, puisque j'ai découvert le magazine pendant la période Covid-19 et qui m'a accompagnée, je dirais, pendant plusieurs semaines et m'a fait beaucoup de bien. Donc, si tu peux me parler un peu plus de l'association, comment elle est née, comment est-ce que tu es venue à cette initiative, puis le magazine?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais te résumer presque 25 ans de notre histoire, en fait, en quelques phrases, parce que ça a commencé il y a presque 25 ans. Moi, au départ, je suis grand reporter, indépendant, et je travaille dans certains pays plutôt dans les domaines de la géopolitique. Enfin, c'est notamment au Tibet qui est occupé par la Chine depuis la fin des années 50, avec un génocide qui est en cours. Et j'utilise le mot en sachant de quoi je parle, puisque j'ai travaillé plus de 15 ans sur la question, 10 ans à peu près, pardon. Et j'ai pas du tout d'aspiration pour les questions d'égalité. Franchement, je suis un mec moyen parmi les mecs moyens sur ces questions, et il faut vraiment que je le reconnaisse. Je suis pas du tout tombé dans cette culture dont je viens de parler avant. Et je rencontre des femmes, en fait, des femmes absolument admirables qui sortaient de prison, qui étaient d'anciennes prisonnières politiques. Et je me rends compte à quel point elles sont époustouflantes, en fait, tout simplement. Et puis de fil en aiguille, je vais pas tout expliquer, mais de fil en aiguille, je me suis lancé dans un projet au long cours qui m'a amené dans une trentaine, quarantaine de pays, dont le Maroc d'ailleurs, et la France aussi, où j'ai fait des reportages sur des femmes en lutte, des femmes en résistance, des femmes agissantes, des femmes en mouvement, et donc pour faire une espèce de cartographie comme ça, des engagements menés, portés par des femmes aux quatre coins du monde, sur des thématiques extrêmement différentes. Suite à ça, nous avons créé, donc début des années 2000, l'association Femmes ici et ailleurs, qui a fait vivre un petit peu ce travail, via des expositions, des rencontres avec des scolaires, des rencontres dans des musées, des rencontres avec de tout public, vraiment. Et le public, dès le début, a répondu en masse, avec toujours deux types de commentaires. Enfin, si je veux être un peu simpliste, c'était « Mais zut, pourquoi on n'est pas au courant ? Pourquoi on n'est pas au courant de ce que font ces femmes géniales, partout, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur continent, pourquoi on n'est pas au courant ?» Et deux, c'est vraiment dommage qu'on soit pas au courant, parce que voir ce qu'elles font, ça nous donne la pêche. Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de l'inspiration. On a des modèles, on peut marcher dans leurs pas. Ça nous donne des modèles à suivre, en fait, tout simplement.
Excellent.
Et en plus, ces femmes, elles sont souvent pas, c'est pas Marie Curie, quoi.
Ouais.
Une femme avec deux prix Nobel de la paix,
ouais,
avec deux prix Nobel, pardon, deux prix Nobel dans deux disciplines différentes scientifiques. Mais ce sont des modèles accessibles immédiatement. Donc, ces expositions qu'on a montées, principalement, ont sensibilisé plus d'1 million de personnes en France. Et puis, dans le même temps, la presse bougeait pas. C'est-à-dire que la presse parle majoritairement, très majoritairement, des hommes, à plus de 80% en France. Le sujet de l'information, là, je ne parle pas des hommes versus les femmes journalistes, qui est un autre sujet très, très légitime, mais de quoi, de qui l'information nous parle? L'information nous parle majoritairement des hommes, très majoritairement. On essayait de sensibiliser les médias en France. Franchement, ils n'ont pas été très réactifs à l'époque. C'est-à-dire que j'avais en face de moi des journalistes, femmes ou hommes, qui n'étaient pas très très réactifs aux chiffres, à ce propos, à ce manque d'inspiration, à cette information à moitié, en fait, puisqu'elle oublie la moitié de la planète, quoi, grosso modo.
Oui, bien sûr.
Et donc, on a décidé en 2012, parce qu'on en avait marre, hein, c'est un petit peu un coup de gueule au départ, on s'est dit, zut, on va créer un magazine d'information. Donc, ce n'est pas un féminin, c'est un magazine d'information générale et politique, qui parle de ce que font et sont les femmes dans toute leur diversité, un petit peu partout dans le monde. Et on nous surnomme un petit peu souvent on nous surnomme le courrier international des femmes. C'est un magazine qui est d'information, donc fait par des journalistes, et qui est de l'information, je crois, essentiellement, enfin, majoritairement, on va dire, positive. C'est-à-dire qui montre tout ce que font les femmes, tout simplement. Donc c'est un patch à coller sur le reste de l'information qu'on reçoit, qui demeure très nécessaire. Le reste de l'information parle majoritairement des hommes, et nous on parle majoritairement des femmes. Si on additionne les deux, on a une info qui est globalement équilibrée, quoi, en fait. Et puis la dernière étape de ce parcours de plus de 20 ans, c'est le lancement l'an passé du Club Femmes ici ailleurs, qui est un petit peu une offre média pluridimensionnelle, on va dire, avec donc pour nos abonnés un magazine, des rencontres en vrai un petit peu partout, principalement sur le territoire français, mais également, ça y est, un petit peu à l'étranger, dans quelques pays. Et puis des webinaires avec des conférences rencontres en ligne. Et là, on rentre dans un nouveau rythme, avec chaque semaine une rencontre avec une personnalité nationale ou internationale, et qui peut être une prix Nobel de la paix, qui peut être une sportive, qui peut être une artiste, qui peut être une chef d'entreprise, qui peut être et dans lesquelles l'échange est au cœur de ces rencontres. On n'est pas trop fan de la conférence de la sachante qui vient et qui déblatère son savoir, tout formidable qu'il soit, pendant 50 minutes. Et chez nous, c'est plutôt 20 minutes de présentation, d'échange, d'interview en public par une journaliste, et après 40 minutes de questions du public, en fait, à cette personnalité. Et voilà, en fait, résumé, c'est 25 ans. Je dis 25 ans, je suis un petit peu menteur, ça fait 23 ans exactement, puisque tout a démarré le 10 mars 1997.
Excellent, merci pour cette précision, Pierre-Yves. Non, mais c'est admirable, de belles initiatives et avec cette volonté de mettre en avant toutes ces femmes des quatre coins du monde, comme tu l'as justement mentionné, qui se battent pour faire bouger des lignes et mettre en avant ces femmes, les mettre sous les feux des projecteurs, puisque souvent, et comme tu l'as dit aussi, les médias tournent le dos aux femmes, et on l'a bien vu pendant cette période Covid, où les femmes ont été balayées d'un seul trait, je dirais, des médias, alors qu'elles étaient sur tous les fronts pendant cette période et pas suffisamment reconnues.
Alors, c'est vrai ce que tu... Moi, j'abonde pleinement dans ce que tu viens de souligner, c'est-à-dire... Pendant la période de confinement, en fait, c'était tellement grossier que ça s'est vu. Tellement les femmes étaient en première ligne et tellement on n'en parlait pas dans les médias que c'était trop gros. Et là, ça s'est vu. Mais cette absence des femmes dans l'information, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant le confinement, quelque part, c'est business as usual. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça, quoi, en fait. Là, ça s'est vu. C'est la seule différence.
Oui, tu as raison, effectivement. D'où ce combat qui est mené depuis plusieurs années à ton niveau et avec ton équipe pour faire justement changer les choses. Et selon toi, quelles sont les raisons qui vont motiver toutes ces femmes, mais aussi ces hommes, à rejoindre votre initiative? Et quels vont être les profils que vous allez rencontrer dans vos différentes initiatives? Alors, j'ai bien compris, beaucoup d'inspiration, identifier des rôles modèles. Effectivement, on peut identifier des rôles modèles à travers des femmes de différents horizons, pas forcément des personnes qui ont eu des prix Nobel, mais toute personne peut être un rôle modèle de par son expérience. Quelles peuvent être ces raisons aujourd'hui qui vont encourager vos membres à vous rejoindre? Hommes ou femmes?
Alors oui, tu l'as dit, alors on a une majorité de femmes, hein, on ne va pas se mentir, mais on commence à avoir un certain nombre de gars qui pointent leur nez et qui découvrent une autre information auxquelles ils n'ont pas accès par ailleurs, et en se disant qu'en fait, cette information, elle n'est pas plus ou moins intéressante que quand on parle des hommes, elle est juste différente et il n'y a aucune raison pour qu'on n'en parle pas. Donc, elle est aussi intéressante ou inintéressante, mais on ne la voit pas. Donc, ils viennent avec ce souhait de diversité. Après, pour toutes et tous, je pense que y a avoir accès à une information positive, différente et complémentaire de ce qu'on voit. Il y a la question des... Enfin, c'est de l'info qui donne la pêche, quoi, souvent. C'est-à-dire qui ouvre les chakras, en fait, qui démultiplie les champs des possibles, qui permet de penser le monde différemment. Et on l'entend souvent, et moi j'avoue que ça me touche, très franchement, à chaque fois je l'entends. Je suis le plus vieux de la bande, là on est une équipe de 6-7, je suis le seul garçon dans l'équipe, avec des gens qui sont impliqués depuis une quinzaine d'années dans ce projet, et c'est vraiment notre ressenti, c'est-à-dire que nous, pourquoi on a fait ça? Parce que ça nous a changé, parce que ça nous a fait grandir, parce que ça nous a fait évoluer, parce que on a des relations personnelles hommes-femmes qui ont bougé, parce que on a vu ce que ça nous apportait de façon positive, la façon d'élever nos gamins, la façon de travailler ensemble, hommes et femmes, la façon de promouvoir une personne dans le cadre professionnel, non pas parce qu'elle est homme et femme, mais tout simplement en oubliant ces stéréotypes qu'on peut avoir. On a vécu de l'intérieur tout ce que ça nous a apporté de regarder le monde différemment, c'est-à-dire d'acquérir cette culture de l'égalité différente et de se questionner en permanence là-dessus. Et du coup, entendre, de voir les membres, les adhérents et les adhérentes qui arrivent du club partager cet enthousiasme et cette inspiration, en fait, cette façon de penser différente, c'est le plus beau des cadeaux pour nous, en fait. Hein. Donc, en fait, ce qu'on a ressenti, ce qui nous a amené à créer le club Famille Ailleurs, est aujourd'hui porté par les adhérentes et adhérents qui le partagent avec d'autres et avec de plus en plus de gens qui nous rejoignent là-dedans. Donc aujourd'hui, ce que je dis souvent, au départ, on était deux. Et puis on s'est dit, on va faire une association, chiche, on a monté ça. Et puis on s'est retrouvé à 400-500. Et puis aujourd'hui, on est 6000. Et c'est en croissance constamment. On est sur un rythme avec environ 500 personnes qui nous rejoignent de tous les mois. Et aujourd'hui, dans 35 pays. Et ça aussi, c'est très important pour nous parce que L'inspiration, elle est à côté, mais elle est aussi à l'autre bout du monde. Il y a une soif de mixité, je crois. J'ai pas envie de vivre entre mecs, hein, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de vivre avec que des hommes blancs de plus de 50 ans qui me rejoignent. Je m'embête, hein. Si je suis qu'avec des clones de moi-même, quel intérêt, quoi. Je trouve que ça a pas d'intérêt.
Bien sûr. Enfin, je ne dis pas que tu as un clone.
Non, mais ça doit être terriblement ennuyant, hein, d'être avec déjà un comme moi. Je dis pas que c'est simple tous les jours, mais alors 20, ça doit être l'horreur. Et donc autant avoir des gens de parcours différents, d'horizons différents, de cultures différentes, de couleurs différentes. Enfin, quand je dis couleurs, c'est pas de couleur de peau, c'est toutes les couleurs, quoi.
Bien sûr.
Et échanger. Enfin, voilà, je crois que quand on parle de mixité, notamment mixité professionnelle, il faut vraiment l'employer au pluriel. C'est toutes les mixités qui sont intéressantes. Et toutes les entreprises qui font pas le pari de cette mixité-là, mais elles se sclérosent. C'est pas possible autrement.
J'aime bien, effectivement, les entreprises se sclérosent, mais au-delà des bienfaits que peut apporter cette mixité professionnelle et mixité de toute nature, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est aussi les entreprises ne sont pas conscientes du réel impact sur le plan économique aussi. Certes, ça permet de développer aussi la performance des collaborateurs, le sentiment aussi de bien-être des collaborateurs, mais aussi en termes de performance économique. Il y a, alors là, je vais plus me concentrer sur la diversité genre, mais pas que, puisque de nombreuses études ont démontré que la mixité, sous tous ses angles, en fait, apporte économiquement de réels bienfaits. Et c'est quelque chose dont doit être consciente.
Oui, tu as raison de le souligner. Et puis moi, j'ai pas de problème à ce qu'on mette en avant ces études, justement. C'est-à-dire que je trouve ça, quelque part, je vais employer des grands mots, mais c'est un peu navrant si le seul argument qui pousse des entrepreneurs et entrepreneureux à travailler sur la mixité professionnelle, c'est la performance économique. Je trouve qu'au niveau éthique et moral, dommage pour eux et pour elles. Mais c'est vrai qu'on a ces études, c'est-à-dire que c'est une faute économique de pas travailler sur la mixité. Toutes les études montrent que quand une entreprise est mixte à tous les étages de la hiérarchie, qu'il y a une véritable égalité pro à l'intérieur, on a un résultat qui peut être 20% supérieur. Je dis pas un chiffre d'affaires, je dis pas des charges, je parle du résultat, 20% au-dessus. Dans France, les dernières études qui ont été montrées montrent même à 23 à 24%. Donc c'est un potentiel d'enrichissement argent pour les entreprises qui est dingue, qui est juste dingue. Ça devrait faire la une des Échos tous les jours.
Oui, je suis d'accord. Si on peut être effectivement plus provocateur et faire réagir les acteurs économiques sous cet angle-là, ça peut être aussi un bon moyen pour faire bouger.
Ah oui, complètement. Moi, je pense qu'il faut se saisir de tout. Puis on fera le tri plus tard. Hein. Avançons. Et puis, si on a qui avance pour des mauvaises raisons, bah, tant pis, avançons quand même.
Avançons, comme tu dis, avançons. C'est très inspirant ce que tu partages et tous les bienfaits que peuvent tirer vos membres de ces initiatives doivent juste être exceptionnels. Est-ce que tu pourrais peut-être partager un ou deux exemples de témoignages de l'un de vos membres, l'un ou l'une de vos membres par rapport aux bienfaits tirés par ces initiatives ?
Oui, je pense qu'il y a... Je vais prendre un ou deux exemples, mais j'ai envie de dire aussi, c'est dingue tout ce qu'on a appris. Tu vois, là, tu es au Maroc, je suis à Lyon, et c'est dingue tout ce qu'on a appris au contact de ces femmes qui sont de partout. C'est complètement dingue. Moi, ça m'a changé de travailler avec des Tibétaines, des Congolaises, des Argentines, des Péruviennes, des Afghanes. C'est incroyable ce qu'elles m'ont apporté. J'ai pas de mots à porter là-dessus. Et je pense que les personnes qui nous rejoignent s'ouvrent un peu comme ça et voient tout ce qu'elles ont à apprendre des autres. Et de la même façon, tout ce qu'elles peuvent apprendre aux autres. Il y a ce partage, et quel que soit le lieu, le continent, le niveau scolaire, on a à apprendre, quoi, en fait. Et c'est ça qui est assez formidable. Après, dans donner des exemples, je crois qu'on a eu des il y a pas longtemps, on a une chef d'entreprise, nous, qui a été particulièrement émue. Je vais prendre deux exemples croisés qui parlent du monde de l'entreprise. ému et touché et impacté, mais profondément. Et elle a dit qu'elle allait mettre ça en place, mettre en place des choses dans son entreprise par la rencontre avec Justine Masika Biamba, qui est une militante congolaise des droits des femmes. Congo étant le terrain, enfin, le comment on appelle ça, le, bon, il y a une guerre qui a lieu larvée depuis la fin des années 90. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 5 millions de morts, et les femmes sont en première ligne avec le viol utilisé comme arme de guerre à très grande ampleur. Et vous voyez, enfin, tu vois, ça a pas grand chose à voir avec cette chef d'entreprise française de PME, voilà, et qui a tellement appris dans l'énergie de cette femme qui a sauvé 18 000 femmes à Goma, à l'est du Congo, que derrière, elle s'est impliquée là-dedans, elle a eu des échanges avec elle est en train de montrer des choses, et elle est en train de travailler sur l'égalité femmes-hommes parce que dans son entreprise, qui lui apporte des bienfaits, parce qu'elle a écouté une militante congolaise lui parler de son action contre le viol comme arme de guerre. Donc, le grand écart paraît énorme. Et de la même façon, excellent, on a un paquet de... Ouais. Chez nous, on a tout profil d'adhérentes, des gens extrêmement engagés, des gens qui ne le sont pas du tout, des personnes qui se revendiquent féministes, des personnes qui se revendiquent non féministes, et peu importe. Moi, j'ai mon avis, je le suis, mais chacun et chacune voit. Et ces personnes sont venues à une rencontre avec Anne-Sophie Panseri, qui est la présidente de Femmes Chefs d'Entreprise en France, et qui est très impliquée dans Femmes Ici et Ailleurs. Mmh. Et Anne-Sophie a partagé sur les actions qu'elle avait mises en place au sein de son entreprise pour travailler sur l'égalité femmes-hommes. Et ces militantes un peu de gauche, un peu anti-entreprise, un peu tout ce qu'on veut, ont été mais complètement retournées par cette présentation. C'est-à-dire qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles étaient complètement dans les clichés, parce que patronne égale exploitante ou je sais pas quoi, etc. Et que c'était pas du tout ça. Et du coup, ça s'est rapproché, ça échange, et ce groupe notamment militant va mettre en place des choses sur l'entrepreneuriat, du coup. Donc voilà, c'est juste en se parlant et en échangeant tout ce qu'on peut, voilà. Voilà deux exemples.
Alors, je voudrais revenir, Pierre-Yves, sur cette période Covid, période inédite et exceptionnelle, qui a eu des conséquences directes au niveau économique, social, mais aussi sur les femmes. Je dirais partie faible de cette équation Covid-19. On a vu beaucoup de précarité, des inégalités exacerbées à différents niveaux, sur le plan économique, perte d'emploi, pas suffisamment de valorisation, sur la sphère personnelle, augmentation de la charge mentale, absence de valorisation du travail invisible, je dirais à la maison, augmentation des violences conjugales, bref. Inégalités qui ont été amplifiées pendant cette période. Comment est-ce que tu penses que les hommes pourraient davantage soutenir la cause de la mixité et de l'égalité professionnelle ?
Alors, la question, elle est vaste et complexe, évidemment. Après, quand on fait ce constat et quand on voit ce qui s'est passé, moi, j'ai ressenti une... J'ai souvent la pêche, mais là, j'en avais marre, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible d'être... Mais comment on a pu... arriver à construire un monde aussi idiot, c'est-à-dire où les personnes indispensables, et on les a vus les indispensables pendant la crise, sont des personnes qui sont non seulement en première ligne, mais qui sont précarisées, qui sont payées à coup de trique, les soignants, les caissières, les indispensables sont pas les personnes rémunérées justement. J'avoue que j'ai espéré, je voyais, je me disais mais c'est pas possible, ça va changer, et voilà. Alors, je suis pas au courant de tout ce qui se passe au niveau international. J'essaie de suivre un maximum, mais voilà. Je vois chez nous en France, ça s'est terminé par des queues de cerises distribuées au personnel soignant, rien pour les caissières, pas grand chose qui s'occupe de toutes celles qui ont perdu leur boulot. Enfin, rien, quoi. C'est-à-dire rien. Et même dans la sphère privée, comme tu l'as dit, la hausse des violences à la maison. Enfin, je crois qu'il va falloir passer par un big bang côté mec. Mais un big bang à coup de pied dans les fesses, je sais pas, mais je suis un peu désespéré en fait de voir à quel point. Alors nous, quand je dis nous, j'allais dire nous sommes idiots, c'est-à-dire on n'est pas intrinsèquement idiots, mais c'est le fruit de cette culture, le fruit de cette domination qui est inculquée de génération en génération, des garçons, des papas vers les garçons et des mamans vers les filles, etc. Et à l'école et dans la société et via la télé. Enfin voilà, le fruit de tout ça donne quelque chose qui a plus de sens, et on l'a vu. Donc ça demande une remise en cause qui est qui est forte. Ça demande du courage de regarder les choses en face. Je suis pas sûr qu'on en soit capable sans contrainte. Et en revanche, je suis très optimiste sur la capacité de nombreuses femmes partout dans le monde à nous imposer cette contrainte. Et il faut pas qu'elles lâchent. Ça va pas être simple. Elles vont s'en prendre plein la gueule partout. Mais il faut pas qu'elles lâchent parce qu'on a besoin de ça. Je crois que c'est les mecs ont besoin de ça pour demain. Les femmes ont besoin de ça pour demain, bien évidemment. Je sais pas si on peut compter. Ta question, c'est comment les hommes pourraient s'impliquer. Alors, je vois tout ce qu'ils pourraient faire. je vois toute cette remise en cause. Je pense que cette culture patriarcale qui est transmise de génération en génération et dans toutes les strates de la société, c'est pas obligatoirement uniquement des parents qui transmettent ça à leurs enfants, malgré tout l'amour qu'ils ont pour eux et pour elles.
Oui.
Mais c'est un ensemble de choses. C'est dans la rue, c'est tout. C'est tellement épais ce truc,
oui,
tellement un chewing-gum qui nous colle à la chaussure dès nos premières années, que je sais pas si nous, les hommes, on est capable de... Là, je suis en plein doute là-dessus en ce moment, j'avoue. Non, je doute de la condition masculine, on va dire, à ce niveau-là, de sa capacité à se remettre en cause. Il y a de plus en plus d'hommes qui voient ça, et notamment de jeunes, qui remettent ça en cause, et ça, c'est chouette. Mais est-ce qu'ils vont être assez puissants, en l'occurrence, pour pouvoir tenir le choc? Je ne sais pas. En revanche, de l'autre côté, je suis très, très optimiste sur vis-à-vis des femmes. Je suis très, très optimiste là-dessus. Je pense que il y a une prise de conscience de plus en plus partagée et ne plus vouloir tolérer ça, en fait. C'est, j'ai l'impression que le vase est plein dans la tête de très nombreuses femmes qui veulent plus accepter ce qui est pas acceptable. Et ça, je suis très optimiste là-dessus. Peut-être ce qu'on peut faire, je parle pas individuellement, mais là, je parle collectivement, c'est apprendre à se taire et à vous laisser parler plus qu'on le sait le faire pour pouvoir prendre les rênes de ce truc-là, quoi. Voilà, ça sera déjà pas mal.
Comme tu l'as dit, c'est une question effectivement vaste et complexe et qui peut être abordée sous différents angles. Je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, ça reste effectivement un long voyage où hommes et femmes, main dans la main, doivent vraiment être impliqués et être là les uns et pour les autres. Après, je pense qu'il y a aussi un gros volet sensibilisation. Tu as parlé des jeunes, cette jeune génération qui est en train de remettre les choses en question. Et je pense aussi que ça commence très, très jeune, quoi. C'est la sensibilisation sur les bancs de l'école, des formations, la lutte contre les stéréotypes, les biais, qu'ils soient conscients ou inconscients, qui touchent tout le monde, hein, hommes et femmes également, hein. Donc, c'est un long voyage et qui mérite vraiment que chacun d'entre nous soit mobilisé pour un monde meilleur. Mais je te rejoins à 100%, une grosse prise de conscience, je pense, des femmes à l'occasion de cette crise, notamment, qui est venue, je dirais, accélérer cette prise de conscience et cette volonté de prendre les rênes.
Et peut-être que dans le monde de l'entreprise, et encore une fois, même si c'est pour des mauvaises raisons, que les chefs d'entreprise, les chefs et les chefs d'entreprise, aillent se questionner sur ce qui se passe dans les murs de leur entreprise et dont ils sont responsables. Et peut-être qu'on peut espérer ça.
Bien sûr.
Mais je suis pas super optimiste là-dessus. Par contre, voilà, je suis très, très optimiste pour, même dans les entreprises, de voir des employés, des cadres, dire non. Voilà. Dire non à certains trucs. On peut plus dire non. On peut plus dire oui, quoi. Voilà. Je sais pas. C'est tellement complexe. C'est tellement, tout imbriqué. Il y a ces histoires d'environnement derrière. C'est tellement difficile à mettre en œuvre. Et puis, on a besoin de retrouver un pouvoir politique digne de ce nom dans tous nos pays, hein, aussi. C'est-à-dire qu'il y a un pulse, ouais, qu'il y a une vision, non pas à 3-4 ans, c'est-à-dire la prochaine élection, la prochaine échéance électorale, mais une vision, on a vraiment besoin d'une vision à 20 ans, 30 ans, d'un cap. Peut-être que oui, réapprendre aussi le long terme, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir, hein, ta question, ouais, j'aimerais bien avoir la réponse, hein, franchement, mais je ne suis pas très légitime pour y répondre et je n'ai pas ces réponses-là. J'ai des envies, j'ai des doutes. J'ai des aspirations, mais je n'ai pas vraiment la compétence pour y répondre.
Il faut continuer d'aller de l'avant pour parvenir à une meilleure égalité. Et le rôle qu'à la société civile, les associations, les actions personnelles, individuelles, comme la tienne, comme les miennes, sont aussi très importantes pour faire bouger les choses. Et je pense que c'est un long combat. Il ne faut pas baisser les bras, même si de temps en temps, effectivement, on peut perdre notre optimisme. Et je pense que c'est important de garder une touche d'optimisme et de rester dans l'action. Ça va prendre des années. C'est un travail qui va être porté par plusieurs générations. Et on le voit hein, depuis plusieurs années. Hein, le combat, la lutte vers l'égalité date depuis plusieurs années. Et malheureusement, on doit poursuivre l'ensemble des travaux qu'ont pu initier nos aînés, ce que nous pourrons poursuivre également et les prochaines générations. Donc, on doit continuer. Donc, je resterai sur cette note positive ou une grosse prise de conscience pendant cette période Covid qui doit emmener ben, chacun des acteurs et des personnes individuellement à poursuivre ce combat qui est aujourd'hui essentiel.
Ah oui, on va continuer. Et puis, pour aussi, je crois qu'en fait, cette crise-là, avec tout ce qui est moche là, qu'on a souligné, je pense que peut-être, ça aura montré à tous ces hommes qui sont au pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir religieux, que ce soit le pouvoir économique, que ce soit le pouvoir familial, que si rien ne bouge, ça va tout se casser la gueule. Donc après, quand on sait que ça va se casser la gueule, bah peut-être qu'on peut espérer qu'on bouge les choses pour que ça ne se casse pas la figure complètement. Quoi. Peut-être qu'on peut espérer ça. Mais là, je trouve ça a vraiment montré ça, c'est-à-dire que ça va se casser la figure si on ne fait rien. Donc ouais, non, on a quelque chose de mieux à faire. Et on va continuer, ouais, tu l'as dit, on va continuer, évidemment.
On ne lâchera pas. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation et bravo vraiment pour toutes ces belles initiatives portées à travers.
Et bravo à toi également parce que nous ne sommes que le porte-voix de ce que font des personnes comme toi en fait. Donc bravo et merci et très très heureux de cet échange également.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Abonnez-vous dès à présent au podcast Les Inspiratrices sur votre plateforme de diffusion préférée pour ne manquer aucun épisode. Et laissez-moi un commentaire avec un avis 5 étoiles. Et n'hésitez pas à partager ce podcast auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis. Je vous invite à me suivre sur mes comptes LinkedIn, Facebook et Instagram, Leïla Bazzi, où vous pourrez ainsi retrouver toutes les actualités et conseils au profit des femmes qui souhaiteraient faire rayonner leur potentiel dans le respect de leur authenticité et de leurs valeurs. Hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode. Bienvenue sur la planète des inspiratrices. Je vous invite à voyager à travers les quatre coins du monde pour aller à la rencontre de femmes inspirantes de différents horizons. Je suis Leïla, révélatrice de talents féminins et je suis animée par la volonté d'accompagner les femmes à prendre conscience de leur potentiel et à le faire briller dans le respect de leur authenticité et de leurs valeurs. Un célèbre coach de développement personnel américain, Jim Rohn, disait « Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps ». Dans ce podcast, vous aurez la possibilité d'étendre votre bulle d'inspiration et de vous nourrir de belles histoires grâce aux interviews de femmes audacieuses au parcours exceptionnel. Ces femmes ont accepté l'aventure d'être elles-mêmes, d'être libres et de vivre en adéquation avec leur mission de vie, leur why, leur pourquoi. Et elle est là leur réussite. Je profiterai aussi de ce podcast pour offrir aux femmes, quel que soit l'environnement dans lequel elles évoluent, de nombreux conseils qui les aideront à faire tomber leurs croyances limitantes et ainsi percer les plafonds de verre. En écoutant ces témoignages inspirants et mes conseils à consommer sans modération, vous vous rendrez vous-même compte que rien n'est impossible. N'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on s'impose. Mesdames, osez faire rayonner votre potentiel et le faire briller dans le respect de votre authenticité et de vos valeurs. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session de développement personnel dédiée au pouvoir de l'authenticité. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Sans cette connaissance de soi, vous ne pourrez pas révéler la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je souhaite vous encourager à vous autoriser à découvrir votre moi authentique et de le faire émerger. La connaissance de soi constitue une étape qui nécessite de prendre le temps de la réflexion. Ce n'est pas en quelques minutes que vous découvrirez votre moi authentique. Néanmoins, je vous donnerai quelques pistes de réflexion qui vous permettront de prendre conscience du pouvoir de l'authenticité et de poursuivre la recherche de votre moi authentique. Sous le poids de l'éducation, des traditions, ou encore dans un contexte où nous faisons face à la pression et aux diktats de la société, à la course vers la performance, la perfection, notre moi authentique s'efface au profit du masque social, ou des masques sociaux, pour justement répondre à certains codes, certains statuts sociaux, et ainsi rentrer dans des moules qui nous empêcheraient d'avancer comme nous le souhaitons. Vous êtes-vous déjà posé la question « Qui suis-je ?» derrière ces différents masques ? Avant même de définir ses objectifs, il est indispensable de commencer par cette première étape de la connaissance de soi, qui conditionnera toutes les autres étapes vers la découverte de votre plein potentiel. Fixer des objectifs sans savoir qui vous êtes vraiment sera une perte de temps, contre-productif, et vous continuerez d'alimenter cette incohérence avec vous-même et ce désalignement entre ce que souhaite votre esprit et les actions que vous mènerez de manière automatique. N'oubliez pas que votre personnalité est unique et ne demande qu'à émerger. Votre style est unique et il est le fruit de vos histoires personnelles, de vos expériences et de vos échecs aussi. Personne ne peut être authentique en essayant d'imiter une autre personne. Observez autour de vous ces femmes leaders, dirigeantes à travers le monde, Angela Merkel, Michelle Obama, Christine Lagarde ou encore Kamala Harris. Chacune d'elles a sa propre personnalité, son propre style de leadership et elles s'assument dans le respect de leur authenticité, de leurs valeurs et de leurs principes. Quand on porte un tailleur qui n'est pas le sien, nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas mis en valeur. Il est donc essentiel de se tailler son tailleur sur mesure. J'ai également ma propre expérience avec la découverte de mon moi authentique. Après de longues et brillantes études de droit, je décroche mon premier emploi et j'avance ensuite en fonction des opportunités qui se présentent. Tous les radars sont au vert et je continue à me développer, à prendre de plus en plus de responsabilités et tout se passe très bien. Sur le plan personnel, de beaux projets se concrétisent, mariage, enfants, une vie bien remplie à tous les niveaux. Au démarrage de ma carrière professionnelle, je ne me suis jamais posé la question de la découverte de mon moi authentique. Jusqu'à ce qu'un événement tragique survienne dans ma vie qui m'a naturellement amené à me poser cette question. Le décès de mon père, survenu en novembre 2015, des suites d'un cancer contre lequel il s'est battu pendant plusieurs années, a été un véritable déclencheur. Après plus d'une quarantaine d'années de labeur acharné, il tombait malade juste avant sa mise à la retraite. Sa nouvelle vie se trouvait désormais rythmée entre les chimiothérapies, les contrôles, les hôpitaux, etc. Et ce, pendant 9 années sans pouvoir réellement profiter de sa retraite. Cette douloureuse expérience a été difficile à surmonter, mais dans mon deuil se cachait un cadeau. Un cadeau que je ne soupçonnais pas à ce moment-là. Ce cadeau était celui de la prise de conscience que je voulais vivre ma vie en pleine conscience et de manière éveillée, en adéquation avec mon moi authentique qui s'était éteint face au mode pilotage automatique, me poussant à exécuter des tâches sans les apprécier ou à en tirer un quelconque bénéfice que ce soit. Et me voilà animé par une force intérieure pour briser ces chaînes qui m'empêchaient d'avancer dans le respect de mon moi authentique. Et s'installe alors une réflexion profonde sur mes aspirations, mes envies, mes passions et moi-même. Qui suis-je réellement ? Mon moi profond était égaré dans les tréfonds de mon intérieur et au fur et à mesure, mon moi authentique a progressivement émergé, la partie non visible de l'iceberg. Ce moi en phase avec moi-même, mes valeurs et ma mission de vie. Mission de vie que j'aborderai dans un épisode. Envie de donner du sens à chacune des actions que j'entreprends afin d'apprécier et savourer l'instant présent. Cette redécouverte de moi-même me permet de devenir tous les jours la meilleure version de moi-même. J'ai ainsi appris à libérer mon potentiel et à l'exprimer à travers mes projets personnels et professionnels dans le respect de mon moi authentique. La découverte de son moi authentique est une expérience salvatrice de bonheur et d'énergie. N'attendez pas qu'un événement tragique se produise dans votre vie ou qu'il ne soit trop tard pour vous autoriser à découvrir votre moi authentique et à le laisser s'exprimer. Pourquoi est-il si essentiel de se connaître? Quels sont les bienfaits d'une meilleure connaissance de soi? Trouver ou retrouver son authenticité peut être un véritable avantage concurrentiel dans vos vies personnelles et professionnelles, et ce pour différentes raisons. Plus vous serez authentique, plus vous serez en mesure de libérer votre potentiel, et vous pourrez ainsi briser les carcans dans lesquels vous avez voulu vous enfermer depuis plusieurs années. Vous arriverez plus facilement à identifier les activités qui feront sens pour vous et qui seront alignées avec ce que vous êtes. Ces activités nourriront votre moi authentique. Vous mènerez aussi vos actions et vos projets avec une plus grande fluidité, aisance, et ce en adéquation avec votre personne et vos valeurs. Vous serez également plus impactante et plus crédible, et vos actions recevront un meilleur écho au sein de votre entourage professionnel et personnel. Et vous développerez ainsi votre capacité à motiver et à inspirer votre entourage. Vous améliorerez aussi vos rapports avec votre entourage, et vous pourrez attirer les personnes qui auront envie de vous suivre. Enfin, vous gagnerez en confiance, en estimant vous et en énergie. Agir en adéquation avec sa personne est tout simplement un gain de temps qui vous poussera à vous dépasser et à relever de nouveaux challenges. Vous n'irez plus contre-courant, ce qui peut être fatigant et contre-productif. Vous vous prémunirez des burn-out, des bore-out ou encore des dépressions. Alors tous ces bienfaits ne vous donnent-ils pas envie de découvrir ou de redécouvrir votre moi authentique ? Dans cette dernière partie, je vous propose de faire un petit exercice en prenant votre carnet qui deviendra votre compagnon de route pendant tout ce podcast. Et je vous invite à tracer sur une feuille blanche une courbe qui est la courbe de votre vie depuis votre petite enfance jusqu'à l'âge adulte. En vous posant les questions suivantes. La première question, que signifie pour vous être authentique dans votre vie ? La seconde, à quel moment de votre vie vous êtes-vous senti dans votre meilleure version de vous-même, dans votre moi authentique, et pour quelle raison? La troisième question, à quel moment de votre vie vous ne vous êtes pas senti dans votre meilleure version de vous-même, et donc en désalignement avec vous-même? Et enfin la dernière, quelles sont les valeurs avec lesquelles vous ne transigerez jamais et qui constituent votre boussole interne au quotidien? Bravo, vous êtes sur la bonne voie pour définir ou redécouvrir votre moi authentique. Je vous invite à poursuivre cette réflexion et n'hésitez pas à partager vos retours par rapport à cet exercice. Et en attendant notre prochaine session de développement personnel qui aura lieu le mois prochain, n'oubliez pas la rencontre avec une nouvelle inspiratrice à découvrir dans 2 semaines, épisode qui s'annonce passionnant et à ne manquer sous aucun prétexte. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Abonnez-vous dès à présent au podcast Les Inspiratrices sur votre plateforme de diffusion préférée pour ne manquer aucun épisode. Et laissez-moi un commentaire avec un avis 5 étoiles. Et n'hésitez pas à partager ce podcast auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis. Je vous invite à me suivre sur mes comptes LinkedIn, Facebook et Instagram, Leïla Bazzi, où vous pourrez ainsi retrouver toutes les actualités et conseils au profit des femmes qui souhaiteraient faire rayonner leur potentiel dans le respect de leur authenticité et de leurs valeurs. Hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode.